Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer. Seigneur, en ta présence, ces moments nous ont permis de nous approcher de toi pour élever ton nom, Seigneur, pour nous prosterner devant ta face. Ces moments nous ont permis, ô Dieu, de faire monter vers toi, Seigneur, notre louange, notre adoration. C'est exprimer, Seigneur, notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur, merci d'avoir accueilli favorablement nos prières. Merci de nous avoir accueillis nous-mêmes, Seigneur, en ta présence, car nous sommes tes enfants, nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous sommes gens de ta famille, gens de ta maison. Nous sommes, Seigneur, des hommes et des femmes que tu as sauvés par grâce, que tu as mis à part et que tu as fait entrer, Seigneur, dans ton Église, cette Église qui est ton corps, dont tu es la tête. Seigneur, merci pour cette grâce et ce privilège de faire partie de cette Église, Seigneur, que tu prépares par ton Saint-Esprit et au moyen de ta parole, cette Église, ô Dieu, que tu veux pure, que tu veux sainte, sans tache ni ride. Ô Dieu, une Église prête à cette rencontre sur les airs, sur les nuées. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, à nous abandonner entièrement entre tes mains, afin que tu accomplisses ce travail de régénération, ce travail de restauration, ce travail, Seigneur, de transformation. Merci pour tout. Nous voulons te tendre une oreille plus qu'attentive, afin que tu nous parles, afin que tu déposes, Seigneur, dans nos cœurs, ce qui vient de ta part. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Je voudrais saluer en passant le couple Wamba. Donc Willy et Joël ainsi que leurs enfants, ils nous viennent tout droit de Belgique. Ce sont une fois de plus des membres plus qu'actifs. Donc à l'église La Pierre Vivante de Jean-Boulon, en tout cas soyez les bienvenus. Et merci d'être venus partager ce moment ensemble avec nous, merci. Gloire à Dieu. Nous allons donc continuer avec notre thème, l'église de Jésus-Christ, deux points, Bethel ou Bethave. Telle est donc la question que nous nous posons depuis plusieurs dimanches, et aujourd'hui ce sera le quatrième épisode de cette série d'enseignements, de cette série de prédications sur l'Église de Jésus-Christ. Bethel ou Bethave, c'est-à-dire l'Église du Seigneur, est-ce la maison du Dieu vivant, cette maison qui est la colonne et l'appui de la vérité? L'Église, est-ce le lieu qui accueille régulièrement la gloire de Dieu? Le lieu où les vies sont transformées, sont changées, les lieux où les captifs viennent, repartent avec une délivrance, où ceux qui ont des problèmes, qui sont sous l'emprise démoniaque, viennent et repartent complètement délivrés, ou alors l'Église, hélas, est-elle une sorte de cloaque spirituelle, une sorte de lieu où tout est permis, lieu de manipulation psychologique, lieu d'idolâtrie, lieu où on élève l'homme, on le fait asseoir sur un piédestal. En d'autres mots, l'Église est Bethave, la maison du néant, la maison de tromperie, la maison du mal, la maison qui repose sur le mensonge, qui repose sur un homme, qui repose sur les charismes humains. Nous allons lire dans 3 Jean, l'épître, troisième épître de l'apôtre Jean, 3 Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons lire très rapidement à partir du premier verset. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Verset 5, « Bien-aimés, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas ou ne reconnaît pas notre autorité. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. Le dimanche dernier, nous avons donc parlé de l'Église comme étant la maison du Dieu vivant, comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Et nous avons dit que pour qu'une église soit véritablement la maison de Dieu, le Bethel du Dieu vivant, pour qu'une église soit la colonne, et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard, la colonne et l'appui de la vérité, il est important que cette assemblée repose entièrement sur la personne de celui qui déclare dans sa parole être la vérité. Il faut que cette Église repose, s'appuie entièrement sur le Seigneur lui-même, reste soumise à l'autorité de sa parole, se laisse nourrir par sa parole, laisse le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, agir pleinement en son sein. Alors cette Église sera, mes amis, le Bethel du Dieu vivant. Sera un lieu où les gens qui ont des problèmes à l'extérieur trouveront des solutions. Ça sera un lieu où la vie de Dieu coulera abondamment et de manière permanente. Ça sera un lieu de salut pour les perdus, un lieu de délivrance et de libération pour les captifs du diable, un lieu de restauration pour tous les gens dont la vie a été détruite par le péché. Vous voyez, telle est donc l'Église selon le modèle biblique. Une église qui reflète la gloire de Dieu. Une église où des rapports sains, des amitiés saines se tissent. Alléluia. Une église où on vient, mes amis, avec toutes sortes de problèmes, on vient usé par le problème. On vient complètement oblitéré par le mal et où on repart complètement restauré, complètement guéri. Alléluia. Telle doit être l'église de Jésus-Christ, où qu'elle soit, qu'elle fonctionne aujourd'hui ou hier, quelles que soient les latitudes, l'Église de Jésus, celle qu'il est en train de bâtir par son esprit et au moyen de sa parole, eh bien, cette Église-là est appelée à être la maison du Dieu vivant, le lieu où la vie de l'Esprit coule en abondance. Mais malheureusement, et nous allons le voir, avec le temps, pour diverses raisons et à cause de plusieurs facteurs, cette église qui au départ a bien commencé, cette église qui au départ était une église éclatante, qui rayonnait, qui brillait de la gloire du Christ et de la lumière du Seigneur, avec les temps, il arrive malheureusement que cette église perde sa qualité, perde cette position, cet état d'être la maison de Dieu pour devenir un véritable Bethaven, la maison de tromperie, où toutes sortes de mensonges sont véhiculés, la maison de manipulation, la maison qui, au lieu de reposer sur le Seigneur, sur l'autorité de sa parole, repose désormais sur un individu, charismatique, sur un autocrate, sur un pasteur monarchique. Et quand l'Église se trouve dans cet état, eh bien, elle devient, malheureusement, hélas, un véritable Beethoven, le lieu où tout le mal est possible, où les, comment tous les maux sont possibles, où le mal prospère, où pousse comme les lys de champ. Oui, nous allons voir aujourd'hui comment une église qui a très bien commencé, qui a très bien démarré, à la base de cette église, souvent on a trouvé des gens oints, des gens que Dieu utilisait puissamment. Il les a amenés à lancer, à implanter une église. Voir comment une assemblée dont le début a été brillant, a été éclatant, a été éblouissant. Comment avec le temps, une telle église, et on en voit aujourd'hui, mes amis, une telle église peut perdre son lustre d'antan, son lustre d'autrefois, peut perdre son éclat, perdre sa qualité, perdre sa nature, son statut de Bethel pour devenir Beethoven, malheureusement, être le lieu où la tromperie règne, où le mensonge règne, où le pasteur monarchique domine sur les fidèles, où il conduit les brebis du Seigneur comme si c'était son propre bétail. Ça, ce sont des signes qui montrent que là, Dieu n'agit pas. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de partager sa gloire avec qui que ce soit. Dès lors où l'homme se retrouve au centre, dès lors où l'homme devient l'appui de l'Église, croyez-moi, le Saint-Esprit cesse d'agir. Le Saint-Esprit cesse de manifester la gloire du Christ, car le Saint-Esprit nous a été donné pour glorifier un seul nom, celui de Jésus-Christ. Même pas celui d'un apôtre. Nous venons de lire l'apôtre Jean, un homme qui a servi le Seigneur de manière glorieuse, quelqu'un qui a été dans l'intimité du Seigneur. Quand il se présente à Gaius, dans cette petite lettre, il dit, il se présente comme l'ancien. Il n'étale pas tous ses titres. Il ne cherche pas à se mettre en évidence en disant, « Oh, je ne suis pas n'importe qui, j'ai mangé avec le Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Pas du tout. Mais aujourd'hui, des églises se transforment en des lieux de manipulation et deviennent, hélas, des antichambres de l'enfer. Des églises qui deviennent des agences de presse pour tel ou tel autre parti politique. Des lieux où on ne parle que de choses du monde. Le lieu où les gens, avec leurs ambitions mondaines, essayent de se frayer un chemin. Oui, nous allons voir comment une église jadis, une église naguère fondée sur le Seigneur Jésus, une église qui baignait dans la gloire du Christ, une église où le Seigneur s'est manifesté de mille et une façons, des vies transformées, comme je l'ai dit, par le Saint-Esprit, une église où les gens expérimentaient des guérisons multiples, de délivrance par rapport à l'emprise démoniaque, à la possession démoniaque, une église où les vies étaient restaurées après avoir été détruites par le péché, des vies après avoir été oblitérées par le mal, trouvaient la guérison dans ces assemblées, des gens qui étaient libérés des forces occultes. Oh, je me souviens de ce temps où on voyait les gens quitter des confréries mystiques pour aller à l'église. Je me souviens de ce temps où les prostituées abandonnaient leur vie mauvaise, leur vie scabreuse, mes amis, pour se tourner vers le Seigneur et se mettre à fréquenter l'église. Une période où les sorciers étaient malmenés, ils n'avaient d'autre choix que de tout abandonner pour se jeter dans le bras du Seigneur. Une église qui brillait de la lumière du Christ, qui brûlait du feu de la Pentecôte. Des églises où les grâces abondantes de Dieu coulaient régulièrement et se répandaient sur tous ceux qui le fréquentaient des bénédictions tous azimuts pour tous ceux qui s'y rendaient. Ils pouvaient dire, comme David, je suis dans la joie parce que je vais à l'église, alléluia. Je suis dans la joie car je vais à la maison de l'Éternel. Je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Ces derniers temps, j'ai des problèmes. Je ne sais où aller. J'ai essayé de frapper à toutes les portes. Rien n'a marché. Mais je sais un lieu. Je connais un lieu où lorsque j'y vais, eh bien, celui qui agit dans ce lieu se manifeste puissamment dans ma vie. Mais malheureusement, tout cela appartient désormais au passé. Et quand on regarde ce passé, dans la plupart des cas, c'est avec beaucoup de nostalgie. Des pasteurs qui servaient de manière désintéressée, qui étaient entièrement consacrés à la cause de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église est remplie d'opportunistes, de troubadours de tous bords, de gens qui n'ont même pas été pris en charge. Ils ont vu comment ça se passait. Ils ont assisté à quelques réunions. Ils ont vu comment on pouvait méditer la Bible. Et quelques temps plus tard, ils sont devenus des prédicateurs. Une année après, ils sont devenus des prophètes. 3 ans après, ils sont devenus des apôtres. 6 ans après, ils sont devenus des souverains sacrificateurs. Et aujourd'hui, mes amis, l'Église souffre de ces gens-là qui sont devenus et qui sont des véritables problèmes pour l'Église. Car leur présence dans l'Église, eh bien, crée des forces de pesanteur spirituelle qui tirent l'Église vers le bas. Il y en a qui sont partis à l'Église avec leurs épouses. Ils étaient tout à fait sincères. Ils cherchaient Dieu. Et puis un jour, le pasteur a remorqué l'épouse, ou le diacre, ou l'ancien. Et pour ces gens-là, il ne faut plus leur parler des églises. Alors ne soyons pas étonnants qu'aujourd'hui on nous traite de gens de binzam binzambi. Voyez-vous, ce n'est pas étonnant que les gens nous disent « ça ne sert à rien ». Et parce que nous-mêmes, les pasteurs, nous nous compromettons. Nous sommes dans tous les concerts du monde. Voyez-vous, nous sommes amis avec tous ces gens du monde. Oui, nous devons les approcher. Ils peuvent être des copains et tout ça, mais nous devons toujours garder une certaine distance. Car celui qui est en nous n'a rien à voir avec celui qui agit en eux. Comment une telle église, autrefois rayonnante, autrefois brûlante par le feu de l'esprit, comment une telle église peut glisser et quitter la voie de la vérité, peut glisser, c'est de faire de l'autorité de la parole de Dieu qui pourtant est la seule norme, la seule règle en matière de foi, de morale et d'éthique, comment une église peut glisser et connaître, hélas, une transformation négative, une métamorphose malfaisante, avec des effets néfastes, des effets destructeurs sur ceux qui la fréquentent. Alors, mes amis, soyez vigilants. Ne vous laissez pas manipuler. N'allez pas là-bas parce que c'est votre oncle qui est le bishop. N'allez pas là-bas parce que c'est le mari de la tante de votre oncle qui est bishop là-bas. Oh, toute la famille va là-bas et par conséquent, je n'ai pas de choix, j'y vais. Attention, le salut est personnel. Le jour où tu devras quitter cette terre, tu partiras seul. Et le jour où tu comparaîtras devant Dieu, ni ton oncle le bishop, ni ton cousin le pseudo-prophète, ni le neveu super-pasteur ne sera pas là, seul, face au Dieu d'éternité. Mes amis, c'est là que le compte à rebours commencera. Mais avant que ce moment arrive, le Seigneur nous demande de veiller, d'être attentif, de ne pas nous laisser conduire par les sentiments. Vous voyez, par toutes sortes d'émotions. Oh, quand je vais là-bas, je me sens bien. Ah, vous savez, même dans le péché, les gens se sentent bien. Hein? Si les gens ne se sentaient pas bien dans le péché, il y a très longtemps, les hommes ne pécheraient plus. C'est parce qu'il y a du plaisir dans le péché. C'est parce que le péché procure un certain sentiment de bien-être, mais qui est un bien-être destructeur. Mais c'est pendant bien-être que le gens se livre au péché. Bref, nous allons voir comment une église autrefois, source de bénédiction pour beaucoup d'hommes et des femmes, peut devenir un véritable Beethoven, un lieu où le mal prospère, un lieu où la tromperie a pris la place de la vérité, un lieu de manipulation, un lieu où certains responsables d'église ont mal d'aventure, la recherche de reconnaissance se comporte en véritable dictateur, comme dit Autreffe. Nous allons le voir. Il n'hésitait pas à mettre à la porte de l'église tout celui qui lui résistait. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Diotref, des pasteurs monarchiques, autocrates. Comment une église peut devenir un repère pour les esprits séducteurs, pour les hôtes des ténèbres, pour les esprits des abysses. Mes amis, tout ceci est possible. Rien n'est acquis à l'avance. Voilà pourquoi la Bible nous demande même notre salut. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons veiller. Nous devons tout faire pour demeurer entre les mains du Seigneur et nous laisser porter par lui et avancer jour après jour en nous appuyant sur sa grâce. Regardez autour de vous, regardons autour de nous, mes amis, que ce soit ici chez nous au Congo et en particulier à Kinshasa ou même ailleurs. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'églises qui avaient très bien commencé. Des églises où Dieu agissait puissamment. Des églises où les dons de l'Esprit se manifestaient puissamment. Des églises qui rayonnaient. C'était presque de soleil qui envoyait des rayons vers le monde des ténèbres. Aujourd'hui, les mêmes églises ressemblent à des petites lanternes, à des petites bougies dont la flamme ne cesse de vaciller. Et on se demande pour combien de temps, parce que l'ouragan des ténèbres souffle de plus en plus fort et détruit tout sur son passage. Combien d'églises, autrefois source de véritables bénédictions, aujourd'hui ces églises sont nulle part. Certes, on continue encore à parler de Jésus. Certes, on a encore des anciens, on a encore des pasteurs. Certes, le nom est toujours là. Mais en réalité, le Seigneur est parti il y a très longtemps. C'est maintenant l'homme qui dirige. Maintenant, tout tourne autour de l'homme. Maintenant, c'est le tribalisme, c'est l'ethnisme qui a pris la place. Ce n'est plus le Seigneur qui choisit ses serviteurs. Non, les serviteurs sont choisis par connivence tribale ou ethnique. Ce n'est plus Dieu qui établit les anciens ou les diacres. Ah non, ce sont les amis. Le pasteur choisit les gens qui peuvent aller dans son sens, qui peuvent le défendre, qui peuvent l'amener à asseoir son autorité et non pas l'autorité de la parole. Nous allons voir combien ces églises sont aujourd'hui complètement à l'ouest, complètement déboussolées. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela arrive-t-il qu'une église au départ Bethel devienne avec le temps Beethoven? Eh bien, parce que toutes ces assemblées, toutes ces églises ont fini avec le temps par quitter l'orbite de la parole de Dieu et à errer à l'instar de comètes loin du Seigneur. Ces églises ont échappé à la force spirituelle de l'esprit. C'est comme la force gravitationnelle. Le soleil, eh bien, tient tout le monde en respect. Dans notre système, toutes les planètes tournent autour d'elle, du soleil. Voilà. Sa force gravitationnelle est telle que aucune planète ne s'échappe. Vous voyez? Mais de temps à autre, il y a des comètes, des objets cosmiques qui se détachent mais qui errent. Voilà. Donc, ils n'appartiennent ni à la Terre, ni aux autres planètes. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aux églises et aux assemblées. Se retrouver aérés, loin du Seigneur, parce que des forces spirituelles des ténèbres ont fini par amener cette église à quitter son orbite autour du Seigneur. Quand le Seigneur est au centre, oh gloire à Dieu, alors nous pouvons orbiter autour de lui par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous restons dans le champ de l'Esprit. Et en restant dans le champ de l'Esprit, nous recevons les ressources, les grâces, les bénédictions, tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche vers la gloire. Que nous dit Salomon dans Ecclésiaste 7-8 ? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah ! Mais à condition naturellement que cette fin soit une fin heureuse. N'est-ce pas? Trop souvent, nous nous contentons du départ. C'est bien. Beaucoup se sont lancés dans cette course-là. 20 ans plus tard, où est-ce qu'ils en sont? C'est pourquoi, mes amis, nous devons toujours nous remettre en question. Voyez-vous? Nous devons tout faire pour ne pas tomber dans une sorte de traditionnalisme, d'activisme qui pourrait nous être fatal, mais à chaque fois s'arrêter un peu, regarder vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, regarde-moi, sonde-moi, Seigneur, suis-je encore sur le chemin de la vérité? Suis-je encore avec toi? Suis-je encore en train de te servir véritablement par la puissance de ton esprit? Ou alors, suis-je en train de me servir moi-même en utilisant ton nom? Rappelons-nous, mes amis, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, et rien ne prévaudra, et rien ne triomphera contre cette église, même pas les portes du séjour des morts, les portes du Hadès. Il a donc montré dans quel contexte il bâtirait son église. Il construit son église dans un contexte de guerre spirituelle. Ne l'oublions jamais, voyez-vous, pour l'avoir oublié, beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aujourd'hui le regrettent. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on a cru que c'était simplement dû au fait que là où les hommes sont, là il y a aussi des problèmes, parce que les hommes n'étant pas parfaits, parce qu'ayant des faiblesses, etc., c'est normal que ces faiblesses se manifestent. En partie c'est vrai, mais au-delà des faiblesses humaines, au-delà de tout cela, il y a une réalité spirituelle, c'est que le diable rôde autour de chacun de nous, rôde autour de l'Église, cherchant à la détruire par tous les moyens. L'Église est et reste la cible privilégiée de Satan et de son royaume des ténèbres. Pour Satan et pour tout l'enfer, l'Église de Jésus reste la bête noire. La bête noire qu'il faut abattre par tous les moyens. C'est ainsi, comme je viens de le dire, il rôde. Il rôde autour de l'Église comme un lion rugissant. Et tout cela dans le but de la détruire. Il a une haine, mes amis, difficile à définir, contre l'Église du Christ. Donc, eu égard de tout ça, Il est donc possible qu'une église, qu'une assemblée perde ce statut, cette qualité, cette position de Bethel et devienne Bethaven. Ceci se fait de manière sournoise, de manière subtile, de manière insidieuse. C'est donc un processus qui se produit tout doucement, de manière presque imperceptible. En cela, le diable est vraiment rusé. C'est là que nous devons faire très attention. Nous, les responsables, nous devons rester ouverts aux conseils des autres, même de la part de gens qui n'ont pas le même nombre d'années spirituelles que nous. Être sensible aux conseils des collaborateurs. Et ne pas donner l'impression que nous avons le monopole de la vérité. Ne pas donner l'impression que nous avons une intelligence la seule qui nous permette de comprendre la totalité des problèmes. Nous aurions quelque part la science infuse pour expliquer tout problème, pour trouver des solutions à tout. Voyez-vous? Un processus très insidieux, très subtil, qui est là, qui traîne cette église Bethel, cette église maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, qui l'entraîne tout doucement sur cette pente qui conduit vers une église Bethaven. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 28, a exhorté les anciens, a exhorté les responsables de l'église d'Éphèse à prendre garde à eux-mêmes. Regardez, on reviendra sur ce texte prochainement. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant. Et puis, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il encourage les responsables. Il encourage les pasteurs. Il encourage tous ceux qui avaient une certaine once de pouvoir ou d'autorité, de responsabilité au sein de l'église d'Éphèse, de veiller d'abord sur eux-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes, mes amis. Car quelquefois, on ne se soucie que de la santé des brebis, oubliant qu'on est soi-même brebis dans le troupeau du Seigneur. Que nous aussi, nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. Il leur dit, prenez garde à vous-mêmes, un, mais aussi prenez garde à tout le troupeau, l'église du Seigneur, au sein du troupeau, duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Surveillant. Ce n'était pas un titre honorifique. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est évêque. Il y en a qui se proclament évêque. C'est une fonction. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes évêque et vous offusquez parce que je dis cela, tant mieux. Être évêque n'est pas une reconnaissance, n'est pas un Oscar que le Seigneur donne. Oh, tu as travaillé longtemps. Quel âge tu as? 38 ans, tu as commencé à servir à 20 ans, maintenant tu deviens évêque. C'est avec le temps qu'il y a eu tous ces dérapages. Episcopoi, littéralement celui qui veille sur. Ces anciens veillaient sur l'église à Éphèse. Veiller sur eux-mêmes, prendre soin d'eux-mêmes, la première chose. Et puis ensuite, veiller sur le brebis du Seigneur. Prendre soin d'elle. Mes amis, dois-je encore vous rappeler que le danger est permanent, que le danger est toujours là. Ce danger guette l'église, la borne. L'église guette, mes amis, n'importe quelle assemblée. Ce danger de devenir un jour un véritable Bethaven. Perdre, mes amis, cette position, ce statut particulier, d'être la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité, pour devenir un véritable Bethaven, un lieu où le mensonge et la tromperie abondent, un lieu où le mal prospère, un lieu d'idolâtrie, un lieu d'impureté, d'immoralité, un lieu où le péché, en d'autres mots, le péché est à l'aise. Nous devons donc veiller sur nous-mêmes, mais aussi veiller sur l'Église. Mon frère et ma sœur, c'est ta responsabilité de veiller sur ton église, la borne. C'est ta responsabilité de veiller à ce que cette église demeure soumise à l'autorité de la parole de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, si un jour je vous prêche autre chose, venez me voir. Car je sais qu'un jour j'aurai des comptes à rendre à Dieu pour tout ce que je vous aurai donné, communiqué comme enseignement. Voyez-vous, je le fais avec tremblement. Je dois être sûr de ce que je dis. C'est pourquoi j'écris. Je peux aussi te prêcher sans notes. Ça fait plus de 30 ans que je prêche la parole de Dieu. J'ai formé des pasteurs, j'ai enseigné tout ça. Mais je veux être sûr que chaque mot que je dis, eh bien, va être bien compris. Et ne pas créer la confusion auprès de chacun de vous, auprès de tous ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Alors, comment une église autrefois, Bethel, peut-elle devenir Bethaven? Maison de tromperie. Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette espèce de déliquescence morale et spirituelle, à cette espèce de dégradation spirituelle, à cette métamorphose négative, à ce changement nocif, malfaisant, maléfique de l'Église. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cela. Mais tout commence avec les responsables. Voilà, la tête. Ce que Dieu a fait lever pour qu'il s'occupe de ses brebis. Voyez, ce que Dieu a fait lever, à qui il a donné le tablier de serviteur, et non pas le tablier, non pas le bâton de dominateur. Tout commence avec eux. C'est ainsi que nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Là, nous voyons, mes amis, ce que Dieu attend de chaque serviteur, de chaque responsable, de chaque pasteur. Peu importe le ministère, qu'on soit pasteur, évangéliste, qu'on soit enseignant ou docteur, qu'on soit prophète, eh bien, tous ces ministères ont un même dénominateur commun. C'est la parole de Dieu. Le prophète n'est pas là pour partager ses visions. Le prophète n'est pas là pour donner ce que lui pense. Non. Le prophète est là pour être simplement un canal par lequel la vie prophétique de l'Esprit se répand sur le peuple de Dieu. Et la prophétie ne peut pas amener les gens dehors de la Bible. La Bible reste notre seule référence. Voyez-vous? Oh, Dieu m'a dit que tu as l'onction de Salomon. Ah bon? Quelle est cette onction? C'est-à-dire, en toi, Dieu a permis d'avoir plusieurs femmes. Ce sont des choses qui se racontent dans certains cloaques spirituels ici, hein. Dans certaines églises Bethaven. Nous en connaissons les résultats. Nous connaissons des témoignages. Voyez-vous? Ouais. La Bible doit nous montrer le chemin. Mes amis, réveillez-vous. Ne vous laissez pas berner par tous ces aventuriers. Allez dans une église où on prêche la parole de Dieu, où elle est bien interprétée. Parce que eux tous ont la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Dans la plupart des cas, c'est des textes qu'ils tirent hors de leur contexte et qui deviennent un prétexte pour faire ce qu'ils veulent. Voyez. On va regarder, Abraham a menti. Ah, moi aussi je peux mentir. Allez. Vous voyez? Abraham était un humain. La Bible nous rapporte les héros de la foi, les patriarches, non seulement dans leur engagement envers le Seigneur, dans leur intimité, dans leur communion avec Dieu, mais la Bible nous montre également leur part d'humanité. C'était des humains. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Eux aussi, ils avaient besoin de grandir. Voyez-vous? Oh, Pierre a régné le Seigneur, donc moi aussi je l'ai régné, bon, je reviendrai. Ah! Nous devons arrêter avec ce genre de stéréotypes. Où quand on parle de Pierre, on voit toujours quelqu'un qui avait régné le Seigneur. Mais ça n'a été qu'un petit épisode dans sa longue marche avec le Seigneur. Il a renié, mais il est revenu. Mais qu'est-ce qui te prouve que toi, tu pourrais revenir un jour? Combien l'ont renié et n'ont jamais eu l'occasion de se repentir? Et ils sont morts dans leur péché, et par conséquent, ils sont perdus à tout jamais. 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous ou qui vous est confié, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, pas selon la chair, ni pour un gain sordide, cupidité, mais de bon cœur. Non en les tyrannisant, en exerçant une domination autoritaire, en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Alléluia. La première chose qui est soulignée dans ce passage, Pierre tient à ce que les anciens, les responsables, les pasteurs, les responsables d'église comprennent une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Faites paître ou paisser le troupeau de Dieu. Ah! Vous appartenez à Dieu. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun prophète n'a le droit de vous manipuler, n'a le droit de vous mépriser, n'a le droit de traîner votre honneur dans la boue. Vous appartenez à Dieu et pour votre salut, Jésus est mort. Les brebis ne sont pas du bétail pour les pasteurs. Aujourd'hui, c'est mon bétail. Aujourd'hui, j'ai besoin de manger cette chèvre là-bas. Et puis, elle dit non, cette brebis, oui, bah. Non, les fidèles sont les âmes du Christ. Vous avez de la valeur, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas le ministère qui nous donne de la valeur ni de l'importance. Nous sommes importants parce que nous sommes en Christ. Nous avons de la valeur parce que nous sommes en Christ. Le ministère n'apporte pas une plus-value à notre valeur intrinsèque. Alors les gens pensent qu'en devenant pasteur, ils deviendraient spéciaux. Non! Non et non. N-O-N. En majuscule. L'église appartient au Seigneur. Le troupeau du Seigneur. Les fidèles appartiennent au Seigneur. Et nous devons en être conscients, nous les pasteurs. Nous devons en être conscients, nous qu'il a fait lever. Non pas parce que nous étions meilleurs que les autres. Il nous a fait lever simplement par grâce. C'est tout, mes amis. Ce n'est pas parce qu'il aurait vu une qualité extraordinaire auprès de nous, parce qu'il aurait vu que nous sommes extrêmement intelligents, nous avons un cerveau à plusieurs étages, non parce qu'il aurait vu que nous avons une moralité à faire pâlir l'enfer. Non, par grâce. Il a dit, toi, lève-toi. Et la personne s'est levée. Toi, lève-toi. Approchez-vous de moi. Voilà, maintenant, les âmes, mes âmes sont assises. Tu dois les servir. Et pour cela, allez, je te donne le tablier du ministère. C'est pour servir. Et non pas pour être servi. Pour ceux de mon âge, un peu, se souviendront du slogan à l'époque, dans les années 70, au début des années 80, je crois. Le slogan du Impère. Servir! Non, c'est servir! Non. Servir, on devrait se l'appliquer. Hein. Voyez-vous? Jésus nous a confié les âmes. Oh là là, d'avancer vite. Pour que nous en prenions soin. Donc ce passage met en évidence le service, le motif du service, mais aussi la manière d'accomplir le service. Vous voyez? Ceux qui sont chargés de l'église, du troupeau du Christ, doivent le faire paître, le nourrir avec la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais vous ne pouvez pas nourrir le peuple de Dieu si vous-même vous n'êtes pas nourri. Mes amis, c'est une responsabilité, une grande responsabilité que de prêcher cette parole. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur qui est dans le ministère, qui prêche, depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, ayez du respect pour lui. C'est très contraignant le ministère. Le ministère use. Doivent, ceux-là, les pasteurs, faire paître le troupeau du Seigneur, le nourrir avec la parole de Dieu. Le faire non pas par contrainte, mais de bon gré. de tout cœur. Alléluia. C'est-à-dire avec amour. Il n'y a pas une contrainte. Voilà. Je dois prêcher parce que j'ai un salaire. Ou parce que je dois avoir un salaire. Non. Salaire ou pas salaire. Le Seigneur nous demande d'agir de bon cœur. D'agir de bon gré. Alléluia. Non pour un gain sordide. C'est-à-dire non par cupidité. Mais plutôt par dévouement. Et aujourd'hui, mes amis, la cupidité est un véritable problème pour nous, les responsables d'église et d'assemblée. La cupidité. Au point où même certains fidèles savent, j'en ai entendu parler, oh, là on organise des conventions à chaque fois que le pasteur doit partir en voyage à l'étranger. Alors il faut voir un peu d'argent. Voilà comment nous sommes de plus en plus étiquetés. Voilà. Voilà. Cupidité. Des pasteurs cupides qui veulent absolument, comme quelqu'un m'avait dit, un pasteur en plus, hein, que nous les pasteurs, nous devrions être plus riches que nos fidèles. J'ai failli m'écrouler. Alors Jésus, dites-moi, Jésus le Fils de l'homme, lui, créateur de toutes choses, quand il est venu sur cette terre, il ne savait où mettre la tête. C'est lui-même qui l'a dit, hein. Les oiseaux ont des nids, le renard ont des gîtes, mais le Fils de l'homme ne sait où mettre sa tête. Il allait de village en village, mes amis, de ville en ville. Mais nous, aujourd'hui, on veut être comme les gens du monde. Et voilà pourquoi certains usent le mensonge. Voilà pourquoi, par cupidité, certains recourent à des fausses prophéties. Et des prophéties ne sont tournées que vers des gens qui ont des moyens. Rares sont ceux qui trouveraient un jeune homme, quelque part, un couloir, en disant, non, Dieu m'a dit, tu dois venir prier. Non, c'est toujours, on regarde. Ils ont un flair incroyable. Hein? Non seulement ils voient, mais ils sentent. C'est terrible. Et puis il recourt à la manipulation. Dieu m'a dit. Et comme les gens aiment ça, comme l'homme est prédisposé à entendre ce genre de choses. Ah oui, ah, j'ai une parole. Oh, gaga, gaga. Oui, j'ai une parole. Et puis, il ferme le visage. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Ils sont là avec leur simagré. C'est les simagrées, ces attitudes ou ces paroles qu'on utilise pour se faire valoir. Nous allons demander au pasteur Paulin de passer. Amen. 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 Ça se passe, hein? Pourquoi déformer, pourquoi se donner l'impression que les autres sentent mauvais, qu'ils puent le péché? Merci, pasteur. Amen! Arrêtez un peu avec ça, c'est du cinéma. Et vous qui les invitez, vous leur donnez l'occasion de sévir. Repentez-vous. Ou alors, appelez-le. Frère, pasteur, votre attitude, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous donnez l'attitude de quelqu'un qui a déjà atteint la perfection. Parce que quand vous nous parlez, c'est comme si vous êtes immunisé. C'est fini. Donc vous êtes dans une bulle parfaite. Vous respirez l'air parfait, vous transpirez parfaitement, tout est parfait en vous. Pasteur, attention, oh, il sait si c'est là. Si c'est un homme de Dieu, il va dire, peut-être qu'il n'était pas conscient, attention, il y en a qui ne sont pas conscients, parce que le diable se cache toujours là, et toujours là, on ne l'entend pas. Il peut avoir amené quelqu'un à ce genre d'attitude, faire croire à quelqu'un que lui, comme il prie tous les jours, de 4h à 9h du matin, eh ben, il est arrivé au sommet. Dans tout Kinshasa, il n'y en a pas deux comme lui. Alors quand il marche, il regarde les autres pasteurs comme s'ils sont nuls. On a beaucoup critiqué le pasteur Jacques Vernon à l'époque. Moi, je me souviens. À un moment, il n'avait pas d'onction, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Voilà. Oh, le vrai apôtre. Moi, je me souviens à l'époque. Évidemment, le pasteur n'aimait pas tous ces titres, mais il a fait un travail d'apôtre. Oui ou non? D'ailleurs, moi, j'avais parlé avec son beau-frère à son décès. Nous étions au salon Angeli. Il m'avait dit, moi, je lui avais dit, Jacques, tu es un apôtre, même si tu ne le veux pas, etc. On l'a accusé de tout. Il n'avait pas l'onction, etc. Il n'avait pas de dons et tout. Mais seulement, ces gens-là ne savaient pas d'où il venait. Voilà. D'où le train est parti. Par où le train est passé. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais entendre tous ces gens qui tenaient ce genre de discours. Qu'ils viennent un peu me dire, voilà, nous avons ouvert autant d'églises. Aujourd'hui, où que vous alliez, c'est peut-être le ciel, vous pouvez arrêter. Où que vous alliez, vous avez un témoignage de la borne, non? Ça, ce n'est pas l'onction. Les gens ont des œillères, c'est l'orgueil. Nous sommes tous pareils. Si tu jeûnes 10 jours, eh bien, c'est que c'est Dieu qui te donne la force. Pourquoi t'enorgueillir? Sois humble. Et d'ailleurs, le vrai jeûne conduit à l'humilité. C'est un vrai brisement. Non à les tyrannisant, c'est-à-dire en exerçant un pouvoir autoritaire, comme dit Autreffe. Il a transformé l'Église en son Église. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu prends la porte. Nous l'avons lu, non? Ouais. Un homme orgueilleux, un homme imbu de lui-même, autoritariste, despote. Voilà. Vous ne pouvez plus recevoir tous les frères qui passent par ici pour prêcher. J'ai décidé. Vous avez compris? L'apôtre Jean entend ça, il dit non, ça ne doit pas se faire. D'ailleurs, je viendrai et je lui rappellerai ses actes. Il cherche toujours à être le premier. L'orgueil, vous voyez ça? L'orgueil, la suffisance, la hauteur. On veut que tout tourne autour de soi. Voilà, c'est toujours son point de vue qui est prédominant. Vous savez qu'il y a une différence entre, je vais m'arrêter là, une divergence de vue et de l'insoumission, hein. Les gens pensent que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il dit voilà, non mais moi je suis... Ah, frère, je suis le pasteur, hein. Vous connaissez ça, non? Là, c'est une attitude de despote. Écoutez d'abord. Vous n'avez pas le monopole de la compréhension. Écoutez, voyez-vous, et après, parlez. Ah non, 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 j'ai décidé, on ne fera plus ceci. C'est lui qui va oser aller à la porte. Je le mets à la porte. C'était ça, dit Autreffe. Et beaucoup de dit Autreffe sévissent aujourd'hui. Et quand vous laissez une église entre les mains de dit Autreffe, laissez-moi vous dire une chose, elle finira par devenir un véritable Beethoven. Tout commence avec les responsables. Voilà. Si les responsables assument leur responsabilité par la grâce de Dieu, ont compris qu'il faut paître le troupeau du Seigneur avec la parole, qu'il faut laisser l'autorité de la parole s'exercer dans l'Église, que le Saint-Esprit est souverain, qu'il fait lever qui il veut, le Saint-Esprit ne regarde pas à la tribu, il ne regarde pas au village de notre naissance, pas du tout, il appelle qui il veut. Alléluia. Voyez-vous? Mais les dit Autreffe, oh là là, ce sont des gens qui résistent, qui ne reconnaissent même plus l'autorité des anciens. Voyez, l'apôtre Jean, il n'a pas reconnu son autorité. Il a résisté à l'apôtre Jean, et qui dans cette petite épître parle avec amour, oui ou non? Il n'utilise pas un langage blessant. Voyez-vous? Oui, nous devons prier pour les pasteurs, pour tous ceux qui dirigent l'Église, afin que le Seigneur nous donne la force de maintenir l'Église dans l'orbite du Seigneur. Alléluia. De laisser l'Église sous l'autorité de la parole des Saintes Écritures. De laisser le Saint-Esprit, travailler comme il veut, comme il entend, évidemment dans l'ordre, vous voyez. Et autrement, si le pasteur oublie tout ça, eh bien, il va traîner avec lui l'Église sur la pente glissante, sur la pente dangereuse qui conduit tout droit et qui conduira tout droit vers une Église Bethaven, un lieu où le mal règne. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider, ô Dieu, nous les responsables, nous que tu as fait lever afin que nous puissions nous occuper de tes brebis, de le faire, Seigneur, avec dévouement et non pas par contrainte, de le faire avec amour, de bon cœur, de bon gré, Seigneur, d'avoir des motivations pures, de savoir que les fidèles que tu nous as confiés sont tes âmes à toi. Ces brebis, Seigneur, sont tes brebis à toi. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas aussi des brebis dans ton troupeau? Aide-nous à travailler pour que, Seigneur, notre assemblée, pour que l'Église que tu nous as confiée reste et demeure le Bethel du Dieu vivant, la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Une Église qui repose sur toi, une Église qui reste soumise à l'autorité de ta parole. Merci Seigneur.